Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
C'est terminé, si la sortie est finie. Avec Jameson, ça sort. Ça sort. La Rochelle. La Rochelle est champion d'Europe. Pour la deuxième fois de suite. La Rochelle.
C'est
un exploit.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, très en forme évidemment ce dimanche matin. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir. Les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct tous les samedis et dimanches de 9h à midi. Les GG, l'émission de sport que tu peux écouter en voiture, en pyjama, en podcast ou les trois en même temps. Au sommaire des GG du sport, évidemment la une, exploit monumental de La Rochelle hier en finale de la Champions Cup face au Leinster. Un match fou et un deuxième titre d'affilée en Coupe d'Europe. Ce match va-t-il rester dans l'histoire du rugby français? 10h, le bras de fer des GG, l'OM qui s'est incliné à Lille hier soir sans Dimitri Payet, écarté du groupe. Igor Tudor a-t-il manqué de respect aux joueurs de l'OL? Ce sera un 2 contre 2. Et puis 11h, de l'OM évidemment. Et puis 11h, les GG passeront la seconde autour du Giro et un Français a créé la sensation hier en endossant le maillot rose, Bruno Armirail de la Groupama FDJ. C'est une première depuis Laurent Jalabert pour un Français depuis 1999. Est-ce un événement? Ce sera notre question. On reviendra également sur les nombreux couacs qui ont émaillé ce Giro 2023 depuis deux semaines. Et puis ne manquez pas votre séquence. Le guet-apens pour les grandes gueules du sport, le fameux débat caché, comme tous les samedis, comme tous les dimanches. Alors là, je vous ai préparé, pas de réaction, je vous ai préparé un petit débat caché. À mon avis, la semaine prochaine, vous allez refuser de faire l'émission. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. On en parlera dans 1h30, mais je sais pas trop si ça va vous plaire. Voilà, je préfère vous le dire. Les grandes gueules du sport, je vous les présente ce matin. Une grande gueule qui, comme Dimitri Payet, a souvent été critiquée pour son hygiène de vie suspecte. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Et tu m'as pas encore suspendu parce que j'aurais pu rester au lit ce matin.
Non, non, je ne t'ai pas suspendu parce que tu es indispensable.
Ah bon, d'accord.
Voilà. Merci. Mais Dimitri Payet, non. Mais toi, tu l'es.
Ah, bon.
Voilà. Et toi, t'as pas fini ta carrière encore.
Non, j'ai pas fini ma carrière, mais j'ai pas fait le débat caché hier. Donc, j'espère que tu vas pouvoir me laisser parler aujourd'hui.
Alors là, avec grand plaisir.
Hier, il nous fait un débat caché et personne a pu parler. Quoi.
Alors, le chronophilet, comme
ça. Oui, c'est terrible. Ouais. C'est terrible.
Mais si, David Douillet a pu parler. Mais c'est un ministre d'État. Je suis obligé. C'est dans mon contrat, les copains. Je suis obligé. En tout cas, je t'attends. Durant à peu près 10 minutes dans ce débat caché à 10h45.
Ah ouais, bah je sais pas ce qu'il nous a réservé là.
J'ai peur.
Oh là 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 là. Pénible avec ces débats cachés.
Une grande gueule qui, comme Dimitri Payet, on n'a jamais vraiment su si elle était gauchère ou droitière. Marion Bartoli, salut Marion.
Moi, je suis ambidex, moi, tu sais.
Ça va, Marion?
Comment ça va, les copains?
Bah, écoute, tout va bien, on est très en forme, on a un programme magnifique et une bande incroyable. Je vous attends vraiment. Excellent sur ces débats. J'espère que vous allez être incroyable. Une grande gueule qui, comme Dimitri Payet, a fait des choses bizarres avec ses cheveux. Heureusement, maintenant ça va mieux. Quoique. Marie Martineau, salut Marie.
Salut.
Les coupes, ça n'a pas toujours été ton fort. Hein.
Non, mais alors, si, mais j'ai vraiment changé. Moi, j'ai eu rasé, j'ai eu rouge, j'ai eu plein de trucs différents, bouclé. J'ai fait des perles.
Et là, c'est bon, maintenant on se calme maintenant.
Et là, ouais, bah, je me suis calmée. Déjà, ça coûte rush. Et puis,
tout ça, on peut plus se calmer.
Ouais, non, puis à un moment, faut accepter le fait que t'as 40 ans. Là, j'ai des cheveux blancs partout. Enfin, j'y vais gentiment, quoi. Tu sais quoi? Aujourd'hui, je fête mon 30e rhume des foins. Voilà. C'est là, ça fait 30 ans que j'ai le rhume des foins.
Ah bah, on est deux. Deux, pareil.
Mais attends, salut, on l'a fait.
Alors, j'ai un nez qui coule. J'ai un super médoc pour ça, je te donnerai.
Ok.
On en parle.
Truc complètement illégal.
On en parlera plus tard parce que ça s'appelle la cocaïne et évidemment.
Non,
il est encore trop
tôt.
Pas du tout. En ce dimanche matin. En tout cas, c'est vrai que t'as bientôt 40 ans, Marie. Tu les fais absolument pas.
Tu l'as déjà dit hier, allez, c'est bon.
Tu fais 38, 39, mais jamais 40. Et puis une grande gueule qui, comme Dimitri Payet, a un palmarès vierge. Enfin, ça, c'est avant de remporter le Giro cette année. Marc Madio, salut Marc.
Salut.
Ouais.
Tu vas remporter le Giro?
Non.
Oh Marc, c'est pas des fétiches, on y croit, on est à... Allez,
non,
arrête.
Ben non, mais
on
c'est
en
pas
parle.
Grave.
Non,
mais
avec...
palmarès vierge quand tu parles de Marc Madio, mais réalise un peu tes classiques, j'y sais quand même là.
Oh, c'est pour faire un lien avec Dimitri Payet, mais oui, c'est du 8e degré.
À la réalité,
et c'est
en fait.
Surtout pour dire qu'il va remporter le Giro, mais il ne le sait pas encore cette année.
Il le sait.
Soit avec Bruno Armirail, soit avec Thibaut Pinot.
Il allait arriver en rose, moi aujourd'hui.
Ben oui, il est en bleu. Pourquoi en bleu?
Sa voiture, parce qu'il a, vous savez, il a une voiture qui ressemble à une voiture de la gendarmerie. Quand on voit la voiture de Madio dans d'un seul coup, on se met à ralentir et tout.
Ah,
et en
l'Italie.
Fait, c'est la groupe
ça simplifie la circulation. Ah,
ben, j'aurais bien aimé que t'arrives en rose aujourd'hui. Ça, on m'aurait fait moins peur.
Ouais, mais il est en bleu avec le maillot du meilleur grimpeur de Thibaut Pinot. C'est pour ça.
Non, il a perdu.
Aïe, aïe, aïe.
Ah, bon, bah, on sait pas pourquoi t'es en bleu.
Mais il va le reprendre.
Allez, c'est parti, les copains. Le rugby, ils l'ont encore fait.
RMC.
La une des grandes gueules du sport.
C'est repressé. Puis son premier carton jaune dans son deuxième.
Plein cauchemar, messieurs, hein, quand même. Hein.
Attention! À l'essai! Le troisième essai sur le renversement! Le doublé de Dan Sheehan sur ce ballon envoyé par Gilson Park.
C'est terrible, hein. C'est... Là, on ne sait pas quoi dire tellement. Tellement c'est les rochers ont pris un grand coup derrière la tête.
Ah ouais, un joueur. Ouais.
Avec Antonio, oui. Antonio qui est
allez,
pris.
Faut que ça
on est dans les poteaux, faut que ça sorte vite. Avec Astoy,
oui,
allez,
il quoi,
faut
jouer.
Attaquer.
Oui.
Essaye de se tenir. Quelle action.
Pas de miracle, non, ils l'ont construit cet essai. T'as vu comment c'était bien joué, comment ils ont enchaîné.
Essaye pour la Rochelle. Essaye de Colombe.
C'est énorme.
Essaye 72e. La Rochelle revient à un point.
Incroyable
un
scénario.
Ne pense à rien, Antoine Astoy. Ne pense qu'à ces poteaux qui sont devant toi. Et ce ballon.
Il y est, oui.
Qui passe. La Rochelle est devant pour la première fois de cette finale. 27-26. 73e minute. Si la sorte est finie, ils l'ont, ils vont la sortir, ils vont la sortir avec Jameson Sassor, Astoy, La Rochelle, La Rochelle est champion d'Europe pour la deuxième fois de suite, La Rochelle,
c'est
l'exploit ici à la Viva, qui l'eût cru, un an après Marseille, La Rochelle garde son titre, 27-26 pour le stade Rochelet qui était mené 17-0.
Ils sont tous par terre,
c'est fou, c'est fou ce qu'ils viennent de faire.
Incroyable. L'exploit de la Rochelle.
D'écrire l'histoire, Denis.
Oui, c'est l'histoire, là.
Il vient d'écrire l'histoire.
C'est incroyable.
Un fameux 3 mars, un comme un oiseau.
Les poils encore avec les joueurs de La Rochelle. Incroyable Rochelet qui reste sur le toit de l'Europe. Magnifiquement commenté par Wilfried Templier et Denis Charvet. Vous l'avez entendu, un an après le succès historique des Maritimes face au Leinster. En finale de la Champions Cup, les Rochelais ont remis ça hier à Dublin. Toujours face au Leinster dans une finale complètement dingue. Scénario hallucinant qui aura vu l'équipe française renverser la province irlandaise après avoir été menée 17-0. Au bout de 12 minutes, La Rochelle s'offre une deuxième étoile sur son maillot jaune et noir. La musique qui fout les jetons et cette question. Cette finale va-t-elle marquer l'histoire du rugby français ? Oui ou non, Christophe Cessieux ?
L'histoire, non. Non, je pense pas.
Marie Martineau ?
Alors moi, je pense que oui.
Marion Bartoli ?
Oui.
Marc Madiot ?
Oui.
Trois oui, un non avant de débattre. Vous le savez, c'est un match qui a été suivi partout en France. Particulièrement à La Rochelle, plus de 40 000 supporters sur le Vieux-Port. Notre reporter Romain Asselin y était au coup de sifflet final. Tout a basculé. Ce n'était pas, comme pouvait le dire Fabien Galthié, une piscine de bonheur, mais un océan de bonheur.
Des fumigènes jaunes, d'autres noirs, des drapeaux agités dans tous les sens, des plongeons par centaines dans le Vieux-Port. Une joie immense et beaucoup d'émotions.
C'est incroyable, j'ai même pas les mots.
Il y a une ambiance de folie, La Rochelle est en feu là. C'est un exploit retentissant, on ne se rend pas compte ce que c'est d'aller gagner le Leinster à Dublin. Ils ont mis 40 points à tout le monde toute l'année.
C'est inexplicable.
J'ai envie de sauter dans
l'eau. Il a sauté dans l'eau.
C'est magnifique pour le peuple rochelais.
Un peuple présent en nombre, en pleine nuit, à l'aéroport de La Rochelle pour le retour des champions.
Ils nous ont pas lâchés à Dublin et nous on les lâche pas ici.
Ils ont souffert, on a souffert avec eux. On est là pour eux et on restera avec eux pour toute la nuit.
On va pas dormir de la nuit, hein. On va faire la fête toute la nuit, hein, avec eux. C'est important pour eux.
Oui.
Pour eux, pour le soutien.
Bah, merci en fait.
On est sur le toit de l'Europe une deuxième fois, donc faut le marquer le coup.
Mission réussie, il est 3h45 du matin. Les Rochelais descendent de l'avion, trophée en main. C'est la folie. Sont plus de 2000 à les attendre dehors. Le président Vincent Merlingue, 73 ans, ferme la marche avec des yeux d'enfant.
Beaucoup d'émotions encore partagées. On a tellement besoin d'eux, on est tellement heureux de vivre ces moments forts avec eux qu'ils sont exceptionnels. Vous vous rendez compte, il est 3h du matin, c'est incroyable. Quoi. Ils sont toujours là, toujours à nous soutenir et les joueurs ont gagné ce match pour eux parce qu'ils ont un tel affectif pour leur public qu'il fallait qu'ils gagnent ce match et ils l'ont fait.
C'est impressionnant. Hein.
Pierre Bourgarit est à l'honneur à La Rochelle.
Qu'on gagne, qu'on perd, ils sont là par milliers, donc voilà, ça remplit le cœur, ça crée des souvenirs.
Et ce n'est qu'un avant-goût de la parade prévue à 16h.
Ça va être une folie. Près de 40 000 personnes.
Oh, des étoiles, là !
Mais du coup, on va plus avoir assez de place. Il va falloir une grosse poitrine.
Pour y accrocher très vite d'autres étoiles. Mais avant cela, les supporters rochelais n'ont qu'une idée en tête.
Maintenant, c'est le bouclier que je vais aller chercher, tout simplement.
Là, on pense au doublé, bien sûr. Hein. Il nous le faut le doublé, maintenant.
Comme a dit Ogara, c'est pas fini.
Maintenant, ouais, on va chercher Brenu, ça, quand même. Faut que Romain Sazi parte avec les deux. Faut faire le doublé.
Tous les rêves sont permis à La Rochelle après une telle soirée de liesse. Et tous les yeux sont rivés vers le 17 juin, jour de finale du top 14. Le double champion d'Europe n'est plus qu'à deux marches d'écrire encore un peu plus l'histoire.
Mais déjà, il y aura la fête hein, cet après-midi. Nous y serons sur RMC. Romain Asselin, notre reporter, n'était pas en direct avec nous car il s'est couché à 6h du matin. Il a suivi toute la nuit des Rochelais.
Donc on... Il est encore en train de nager dans le port alors qu'il est.
C'est pour ça qu'on va le laisser un petit peu tranquille et on le retrouvera un petit peu plus tard. En tout cas, nous serons en direct dans cette émission et tout au long de la journée en direct de La Rochelle. Cette finale va-t-elle marquer l'histoire du rugby français? C'est notre question, le 32-16. Le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. J'ai un nom, on va aller le voir. Christophe Sessieux, pourquoi non?
Alors, évidemment que c'est un exploit extraordinaire, qu'on s'est régalé et que réaliser une telle remontada sur la pelouse de ce qui est considéré à l'heure actuelle comme la meilleure équipe du monde, c'est fantastique, c'est énorme. Mais de là à marquer l'histoire, voilà, c'est vrai que quand on a peu de recul, comme on a, comme c'est souvent le cas dans les grandes gueules du sport, tout de suite on s'emballe, ça va marquer l'histoire. En étant l'histoire, c'est pas au lendemain d'un exploit qu'on peut la juger et de savoir ce qu'elle retiendra d'un événement comme ça. Évidemment,
mais au feeling, dans 10 ans, tu penses qu'on en reparlera au feeling comme
est-ce
ça
que, est-ce que
peut-être
vous
pas.
Est-ce que vous vous souvenez des trois titres? Est-ce que ça a marqué l'histoire? Oui, ça a un peu marqué l'histoire, mais les trois titres consécutifs du RC Toulon, il y a quelques années, on en parle encore avec des tremolos dans la voix.
Mais ça qui fait, se souvient vraiment fait... des finales, c'est ça?
On ne se souvient pas des finales. On se souvient effectivement 1, 2, 3 succès consécutifs, donc un doublé. On se souvient du Stade Toulousain aussi qui a réalisé le doublé. Et ça, c'est énorme. Réaliser Coupe d'Europe plus bouclier de Brennus, titre de champion de France, c'est énorme. Mais ce que retient l'histoire, c'est les choses rares ou les choses nouvelles. Or là, c'est ni rare ni nouveau. C'est pas rare parce que sur 28 éditions de la Coupe d'Europe de rugby, 11 ont été remportées par des Français. Donc c'est quasiment une année sur deux. Et là, c'est la troisième année consécutive. Donc tu vois, pour marquer l'histoire, il faudrait que la France devienne championne du monde. Là, oui, évidemment. Même si la finale est une finale de merde, tu t'en souviendras dans 200 ans. C'est ça que je veux dire. Marquer l'histoire, c'est des choses qui restent 50 ans plus tard. Ouais, cette finale, elle est magnifique. Elle a filé des frissons incroyables. Mais dans 50 ans, dans son 60 ans, peut-être pas.
Non, mais c'est intéressant. Je ne sais pas si,
mon successeur, dans 20 ans, par exemple, fera sur La Rochelle. Je ne sais pas.
J'allais te poser cette question. Et je pense que oui, parce que tu nous racontes toujours des histoires qui sont un petit peu sorties de la mémoire collective. Et quand tu les racontes et qu'on ressent les sonores et tout, on se dit ah ouais, c'était fort, ah ouais, c'était du lourd et tout. Moi, je pense que c'est un exploit qui marquera parce qu'ils ont, en plus, d'avoir gagné le Leinster chez eux et tout, ils ont quand même renversé la tendance et tous les pronos. Je veux dire, hier, personne n'est donné gagnant, à part Marc et moi, on était là. Ils ne sont noyés dans aucune autre actualité, finalement, là, en ce moment. Donc, c'est quand même vraiment le truc du week-end. Voilà. Le fait qu'on va garder ces images du port noir et jaune, tout le monde qui braille et tout ce qui va se passer aujourd'hui, comme ce qui s'est passé hier soir. Le fait que ce soit la deuxième fois, donc forcément, les gens ont tendu l'oreille, même les gens qui n'aiment pas le rugby de base ou qui le suivent pas spécialement auront tendu l'oreille en se disant hier soir ah ouais peut-être qu'ils vont le faire. Finalement ils l'ont fait à une heure de grande écoute, une super bonne heure tu vois pour marquer la France. Le créneau 17-20h il est merveilleux. Derrière ils ont fait tous les JT ce matin, ils sont sur tous les sites internet partout, on ne parle que de ça. Ça fait quand même beaucoup de choses à 9 mois d'une Coupe du Monde, donc d'un sport qui intéresse le grand public parce que ça va être à la maison et tout. Donc moi je crois que
il y a quelque chose qui prend. OK, très bien. Marion Bartoli et Marc Madieu ensuite. Marion.
Moi, je suis sur la même chose et c'est vrai que je suis pas forcément en accord avec Christophe parce que les matchs qui marquent l'histoire, c'est les matchs où il y a une histoire à l'intérieur de ce match. Et là, quand tu prends la marée comme ils l'ont pris sans faire de mauvais jeu de mots, en 10 minutes où tu as l'impression, et on l'entend d'ailleurs dans les commentaires de Denis, que ça va être une finale, mais alors très très longue, qu'ils vont s'en prendre 40 dans la figure, qu'on va pas arriver à exister, que la pression de la Viva, ça va être trop important à gérer, que oui, on arrive à les taper en France, mais que là, chez eux, c'est quand même quasiment l'équipe d'Irlande alignée, et que du coup, par on va dire ricochet, on peut vraiment être très inquiet pour la Coupe du Monde. monde si jamais on a affronté l'Irlande qui est quand même numéro 1 classement World Rugby et qui a gagné le, qui a fait le grand chelem sur le dernier tournoi destination. Et puis à la force du mental, à la moelle, à l'expérience, par leur jeu aussi, par leur talent, ils arrivent à renverser une situation complètement compromise sur un terrain qui n'est pas le leur et sur une équipe qui archi domine quand ils jouent à la maison.
C'est donc le scénario, pour moi, si je
et oui c'est
bien.
Ça, pour toi, c'est exactement, le scénario. C'est exactement, c'est comme si effectivement t'arrives, je sais pas l'exemple, mais
tu perds 3-0 face au Brésil en finale de coupe.
Et t'arrives à le remonter. Alors même si oui, on a déjà été capable de la gagner dans cette Coupe du Monde, le scénario fait que je pense dans les écoles de rugby ou dans les prochaines équipes de France ou les prochaines équipes qui auront affronté comme ça des monstres à l'extérieur, on leur montrera ce match en disant mais voyez, vous étiez menés, ils étaient menés et puis ils sont arrivés à renverser la vapeur. Et moi, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, déjà ça fait la troisième fois, ça fait la troisième défaite consécutive qu'ils infligent au Leinster, puisqu'ils les battent en demi-finale il y a 2 ans, ils les battent en finale l'année dernière, ils les battent à nouveau cette fois-ci, et c'est vraiment mentalement qu'ils les ont fait plier. Et ça, je pense que ça restera dans la région.
C'est du même niveau, Marion, pour toi, que l'exploit du Barça face au Paris Saint-Germain et la remontada.
Exactement, ouais. Exactement. Tu vois, en fait, c'est le scénario. C'est pas là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est pas le fait qu'il l'ait gagné. Je suis complètement alignée sur ce que tu as dit en disant qu'effectivement, on l'a gagné assez régulièrement. Et donc là-dessus, c'est pas forcément un exploit. Mais cette remontada, la manière dont ils l'ont faite, alors que t'as l'impression vraiment, et même les joueurs l'ont déclaré, hein, certains se disaient dans la tête, au bout de 10 minutes, elle va être très longue cette finale. Elle va être très très longue. Et d'arriver à retourner comme ça la situation, j'ai trouvé ça absolument exceptionnel. Okay. Et je pense que c'est pour ça qu'on a été tous scotchés devant notre télé.
Marc, on parlait de culture de l'instant. On ne sait jamais forcément ce qui va faire l'histoire, mais pour toi, il y a les prémices de quelque chose. Il s'est passé quelque chose hier.
Il pouvait se passer quelque chose à partir du moment où ça se déroulait en Irlande, qu'on n'était pas favori du tout. Tout le monde les annonçait battus. Et le fait de réussir ce retournement de situation pendant le match et de conclure pour un petit point, en fait, avec la victoire. Pour moi, c'est ça qui va rester dans l'histoire. En fait, c'est la remontada et le fait de gagner là-bas. Le match aurait eu lieu en France sur un terrain neutre, on va dire, et avec un déroulé de match traditionnel, on n'aurait sûrement pas eu la même réaction. Là, on est dans un moment d'histoire de déroulement du mental des joueurs sur une partie. Et c'est ça qui va rester, je pense.
Ok, le contexte, le scénario, juste avant de te redonner la parole, Marie, juste écouter les Rochelais, Aldrit et Sazi, après cette rencontre et ce scénario complètement dingue.
Ça a été un match incroyable. On a fait preuve d'énormément de caractère. Je pensais que j'avais touché le sommet au niveau des émotions avec le match, avec le port. Franchement, ça s'arrête jamais, donc j'espère juste qu'on va rester dans ce mood et qu'on va aller, qu'on va surfer sur la vague et qu'on va profiter maintenant.
Parce que je pense qu'on a un groupe très fort, rugbystiquement, mais humainement, on est capable de faire des choses au-delà d'une simple amitié qu'on peut avoir. Et c'est ce que le coach cherche. Et je peux vous assurer qu'en ce moment, je joue pas avec des copains, je joue avec des frères.
Rincer les Rochelais mais ému, Marie Martineau.
Oui, je repensais au fait qu'hier on a beaucoup dit que cette équipe du Leinster était quasiment l'équipe d'Irlande, qu'elle représentait l'équipe nationale. Qui est quand même la meilleure équipe du monde et qui nous a cassé complètement les dents la dernière fois qu'on a joué en tant qu'équipe de France.
Pardon.
Donc pour ce qui est de marquer l'histoire, il y a aussi le fait que on a l'impression que le club de La Rochelle est quasiment champion du monde. Il a battu en tout cas la meilleure équipe du monde et tout. Enfin,
bah attends, faut envoyer La Rochelle alors pour
Il va falloir naturaliser quelques joueurs quand même.
Non mais ça, par contre, c'est un vrai marqueur et c'est vrai que de marquer les Irlandais à 4 mois de la Coupe du Monde, c'est super important parce qu'on restait quand même sur des défaites conséquentes face à l'Irlande, que ce soit lors du dernier tournoi, que ce soit la large défaite de Toulouse qui est quand même considérée comme une place très très forte du rugby français et du rugby européen et qui a pris une dérouillée face au Leinster. Là, c'est la dernière fois qu'on va affronter ces joueurs avant la Coupe du Monde et on peut les affronter en quart de finale. Et ben voilà, on va pouvoir les regarder droit les yeux dans les yeux.
Tu parlais de Toulouse, vous m'autorisez juste pour clore ce débat, être un peu coquin avec Mourad Boujelal qui a déclaré avant la rencontre, disputer 3 finales de suite, ce n'est pas anecdotique. Cela signifie que La Rochelle fait partie des plus grands clubs de l'histoire de la Coupe d'Europe. Aujourd'hui, La Rochelle, c'est une machine à broyer. Je pense qu'ils sont passés devant Toulouse.
ça m'énerve.
C'est un tacle à la gorge, il a raison.
Non, mais alors, je ne sais pas s'il a raison, c'est difficile. Et j'espère que les deux équipes s'affronteront un peu plus tard dans la compétition, puisqu'ils devraient normalement s'affronter en finale, si la logique est respectée. Mais en tout cas, c'est en train de peut-être créer une sorte de rivalité qui, pour l'instant, est assez soft entre Toulouse et La Rochelle, parce que Toulouse a toujours été au-dessus et Toulouse se pense à avoir créé le rugby et être le dépositaire du jeu en France. Là, ils ont un vrai rival et j'ai hâte de voir l'affrontement peut-être en finale du championnat, voir s'ils sont arrivés à leur niveau. Pour l'instant, Toulouse reste la bête noire de La Rochelle. Il est difficile de gagner face à Toulouse pour La Rochelle.
Bon, on reparlera de La Rochelle dans cette émission. Ami Rochelet, si vous êtes réveillé 9h28, ça m'étonnerait, mais n'hésitez pas à réagir avec nous au 32-16. On retournera à La Rochelle et tout au long de la journée, nous allons suivre les festivités après cette donc magnifique victoire en Coupe d'Europe. 9h28 donc, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Nous allons parler de tennis à une semaine de Roland-Garros et d'une Française. Non, ce n'est pas de Marion Bartoli dont nous allons parler. Nous allons parler de Caroline Garcia qui ne va pas bien. Ce sera la punchline des GG. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h33 de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission tous les samedis et dimanches de 9h à midi. Merci infiniment de votre fidélité, toujours avec Marion Bartoli, Marie Martineau, Christophe Cessieux, Marc Madiot. Dans 10 minutes, on s'en fout pas, des informations à vous donner, à vous de me dire si ça vous intéresse, mais GG notamment la guerre au CNOSF à 14 mois des Jeux Olympiques. Vous me direz votre sensation sur ce qui se passe et je vous raconterai évidemment tout en détail, peut-être pas tout, sinon ça nous prendrait à peu près 10h. C'est une descente aux enfers qui ne s'arrête plus. Le week-end dernier, Caroline Garcia a été sortie du tournoi de Rome par la 100e joueuse mondiale. Un nouveau couac dans cette année 2023 catastrophique pour elle. La 5e joueuse mondiale est touchée mentalement, moralement, à quelques jours de Roland-Garros. Ses larmes sur son banc durant la rencontre peuvent en dire beaucoup. La punchline des GG, on écoute Caroline Garcia après la rencontre, rapportée par notre copine Siri, la rapporteuse.
RMC, la punchline GG.
Je fais les efforts, j'ai l'impression de faire les choses bien et j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Sauf que, quand j'arrive sur le court, tous ces eux que j'ai bien fait, je ne le fais plus. Au bout d'un moment, j'aimerais savoir pourquoi, au moins arriver à le contrôler et à changer ça. Mais non, ça m'enfonce de plus en plus. Au lieu de kiffer le moment sur le terrain, ça devient un cauchemar.
Ça devient un cauchemar, c'est la phrase de Caroline Garcia. Faut-il déjà faire une croix sur Caroline Garcia pour ce Roland-Garros ? Oui ou non ? Marie Martineau ?
Je pense que oui.
Marion Bartoli ?
Non.
Christophe Cessieux ?
Oui.
Marc Madiot.
Non.
Deux non, deux oui. Marie, pourquoi oui ? Je rappelle que tu as un diplôme de préparatrice mentale et on imagine que Caroline Garcia en a un peu besoin là.
Oui,
pas
alors
loin
de moi la prétention de faire la leçon à Caro Garcia hein, sur ce qu'elle devrait faire ou pas. Ce que je peux vous expliquer que j'ai moi-même appris alors dans ma carrière et corroboré par les cours que j'ai pu prendre, c'est les piliers sur lesquels s'installe la motivation et la motivation étant certainement le truc le plus important dans ta préparation. Et ces piliers, ils sont pas très nombreux. Il y a le sentiment d'autonomie, le fait de se sentir à l'aise dans ses choix et avoir l'impression que c'est toi qui es le maître de ton bateau et que tu pilotes ton truc avec ton staff, tout ça. Il y a le sentiment de plaisir, bien sûr, aller avec grand plaisir faire ton sport. L'appartenance au groupe, voilà, te sentir bien avec les gens avec qui tu joues, les gens contre qui tu joues, la fédé, enfin tous les cercles dans lesquels tu évolues. Le progrès, l'engagement et il y a surtout la compétence. Et moi, quand je l'entends, sur juste cette phrase-là, hein, j'ai l'impression que sur le sentiment de compétence, là il y a du job. Que là il faudrait peut-être qu'elle, mais j'imagine qu'elle voit des gens et qu'elle a certainement un prep mental ou une psy et tout. Mais voilà, j'ai l'impression que son sentiment de compétence est en berne, qu'elle a l'impression qu'elle n'est pas compétente et qu'il faudrait quand même juste lui remettre en face le fait qu'elle ait confiance en elle parce qu'elle est compétente, parce que ce qu'elle fait, elle le fait super bien. La preuve en est, elle a été numéro 4 mondiale, on l'adore, tout le monde l'adore. Là où je vous dis
Et puis il y a six mois, tout allait bien.
Voilà, c'est ça. Mais tout peut se dérégler si vite, la machine peut se dérégler si vite, et après tu n'arrives pas à mettre le doigt sur le truc, et là ça devient justement un enfer. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, c'est un peu juste pour Roland Garros. La machine, elle se dérègle très vite, tout comme tu perds une forme physique très vite. Mais c'est long quand même à remettre en place, et les principes qui s'appliquent à ton cerveau sont un petit peu longs à remobiliser. Quoi.
Ok, là le timing n'est pas forcément
bien. Ce qui est marrant, c'est que quand elle joue bien, on a l'impression qu'elle se pose déjà la question. Elle dit, oh là là, je joue bien, pourvu que je continue à bien jouer, pourvu que je continue à bien jouer, oh là 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 là. Ouais. Tu vois, c'est ça, elle est presque dans l'inquiétude de la balle d'après, de se dire que je vais peut-être pas y arriver alors que je joue tellement bien maintenant. C'est dingue, je sais pas comment elle est faite mentalement. On sait que le tennis est un sport sans doute le plus dur mentalement parce que tu peux être la plus forte. Regarde, quand tu la vois jouer, quand elle est au sommet de sa forme, non seulement c'est une superbe athlète, et en plus elle délivre des coups incroyables, mais ce mental qu'elle n'arrive pas à gérer sur le long terme. Elle peut être au sommet pendant quelques semaines quand tout va bien autour d'elle, et puis d'un seul coup elle est au fond du trou, n'arrive plus à mettre une balle de dans le court. C'est terrible. Dans sa tête, ça doit être un beau bordel quand même.
Faut-il déjà faire une croix sur Roland Garros? C'est dans une semaine. On a entendu les deux oui. Il y a les deux non. Avant d'écouter Marion Bartoli, forcément, c'est la mieux placée pour nous en parler. Le manager que tu es, Marc Madio, sur Caroline Garcia, quand on est à une semaine d'une échéance, est-ce que ça, c'est rattrapable? Ou franchement, on met juste du scotch là?
Alors, c'est rattrapable si elle a fait ce qu'il fallait avant. Je m'explique. Comment a-t-elle géré son intersaison? A-t-elle changé beaucoup de choses dans ses habitudes?
On peut te répondre là, c'est oui. Il y a eu son entraîneur qui est parti, après il est revenu.
Ouais, bon, ça, déjà, ça, il y a un petit couac là. Mais ce qui est important à savoir, mais là, j'ai pas la réponse, c'est peut-être Marion qui va pouvoir nous la donner. Quelle a été son attitude? Quelle a été sa vie, tout simplement, entre le moment où tout allait bien et le moment où ça commence à aller mal? Si elle a eu une vie régulière, si elle a mené une vie d'athlète, si elle a fait ce qu'il fallait à l'entraînement, si elle a conservé sa volonté de victoire, ça peut être un accident de passage, et le simple fait peut-être justement de retrouver Roland Garros va lui permettre de récupérer l'essentiel de ses qualités, et ça va redémarrer. Par contre, si elle n'a pas eu le comportement, ou si elle n'a pas fait tout ce qu'il fallait, ou si elle a été par rapport à des situations en difficulté, pas forcément de son fait à elle, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais je pense que la réponse, elle est d'abord dans l'analyse de ce qu'elle a fait précédemment. Si elle a tout conservé de ce qu'il y avait de bon dans sa préparation précédente, sur la saison précédente, il n'y a aucune raison que ça ne redémarre pas.
Marion, tu vas nous expliquer pourquoi toi tu y crois encore.
Moi, j'y crois encore, effectivement, pour plusieurs éléments. Et puis, je connais Caroline depuis qu'elle est toute jeune. Elle était rentrée en Fed Cup quand moi, j'étais numéro 1 et titulaire. Elle arrivait comme remplaçante en même temps que Kristina Mladenovic, puisqu'elles sont de la même année d'âge. Donc, c'est des filles que je connais depuis extrêmement longtemps. Et Caro a toujours eu le même système de fonctionnement. Alors, pour répondre point par point à Christophe, à Marie et à Marc, qui évoquent effectivement des points qui sont extrêmement intéressants, avec le type de jeu qu'elle a, c'est-à-dire extrêmement à risque. C'est pas une fille qui est à 2 mètres de fond de court et qui remet et qui attend la faute. Oui. C'est une fille qui est dans le terrain, qui, pour pratiquer ce jeu, qui était un jeu que je pratiquais également, il faut que tous les réglages, mais quand je dis tous les réglages, c'est vraiment tout. Donc c'est la concentration visuelle, c'est l'anticipation, c'est effectivement le dynamisme physique, l'explosivité. Il faut que tout soit 100%. S'il y a une partie qui est un petit peu déréglée, surtout sur une surface comme la terre battue, où les rebonds sont parfois aléatoires et c'est pas comme du dur où ça vient dans la raquette, ça devient extrêmement compliqué. Et là où effectivement elle évoque le fait qu'elle ne comprend pas pourquoi elle se sent aussi mal à l'aise sur le court, c'est parce qu'il suffit d'un tout petit déréglage sur quelque chose pour que tu aies vraiment la sensation de, entre guillemets, plus mettre une balle. Alors c'est relatif par rapport à ce que tu as été capable de faire, bien évidemment. Bien sûr que c'est une magnifique joueuse de tennis et qu'elle sait parfaitement jouer au tennis, mais par rapport à mettre un retour gagnant à 10 cm de la ligne, quand soit tu le rates, soit tu mets un retour un mètre plus court et que tu prends une balle gagnante derrière, toi, en tant que top 10 mondial, tu as l'impression de plus savoir jouer. Donc faut prendre aussi ses propos avec... un petit peu de recul. Voilà, un petit peu de recul par rapport à ses standards à elle, qui sont bien évidemment très élevés. Elle a raison d'avoir des standards extrêmement élevés.
Oui, mais Marion,
maintenant, pour répondre à, pour répondre à la question de Marc, oui, elle a continué à faire les choses, même si elle a changé d'encadrement, même si elle a changé d'entraîneur. Et là où je suis d'accord avec toi, Marie, c'est que la joueuse reste quand même pilote de sa mini société. Parce que quand t'es joueuse de tennis, t'as une mini société avec que tu diriges, avec ton entraîneur, ton prépa physique, ton kiné, ton prépa mental, tout ce que tu veux, mais c'est toi qui emploies les personnes que t'as envie d'employer. Donc, elle est restée dans un cursus en s'entraînant bien. La seule chose, c'est que quand tu pratiques un jeu aussi risqué, et moi, j'avais exactement cette même peur pour répondre à, pour te répondre, Christophe. Le sentiment quand tu joues bien de se dire est-ce que la semaine d'après où tout change, les conditions changent, tu vas dans un endroit différent, t'as pris l'avion, la surface est différente, les balles sont différentes, tu dis voilà, est-ce que le retour je vais le mettre exactement au même endroit ou est-ce qu'il va être un mètre plus court, est-ce que le service quand je vais servir sur la ligne en deuxième et ben il va pas être 40 cm dans le carré et puis ça a pas du tout la même efficacité. Tout le monde se pose ces questions-là. Même Djokovic se pose ces questions-là, même Alcaraz se pose ces questions-là. Donc, en fait, c'est ça la plus grande difficulté d'un joueur de tennis, c'est de se dire est-ce que tu vas arriver à réitérer les performances. Et je prends simplement l'exemple de Sabalenka, qui est une des favorites pour aller gagner Roland Garros. L'année dernière, à un moment donné, elle faisait 25 doubles fautes par match. Bon, elle savait servir, mais il y a un espèce de blocage psychologique. Et puis, quand ça commence à mal aller et que t'es devant 10 000, 15 000 personnes, les gens qui regardent la télé, que t'arrives plus à mettre un service, t'as un sentiment de vide, mais qui, mais tu peux pas t'imaginer. T'as envie de prendre ton sac et de partir. Donc moi, je dis qu'aujourd'hui, dans le tennis féminin, il y a tellement de bouleversements. Une fille qui joue mal une semaine, la semaine d'après, elle joue hyper bien. Une fille qui joue hyper bien la semaine d'avant, la semaine d'après, elle joue hyper mal. Même Swiatek, cette année, elle domine pas. Je vois, franchement, je pense que Caro, à Roland Garros, c'est là où je rejoins Marc. Avec l'engouement du public, ce qu'elle va ressentir, l'amour des gens, la cote de popularité qu'elle a aujourd'hui, il suffit qu'elle démarre sur un ou deux matchs et elle peut largement enclencher la machine. La seule chose, c'est que malheureusement, elle a perdu une place au classement, elle est cinquième. Rybakina est passée quatrième en gagnant Rome. Et que du coup, elle peut jouer une tête de série de 1 à 4 dès les quarts de finale. Et tête de série de 1 à 4, en ce moment, elle domine le circuit féminin. Jessica Pegula peut-être un petit peu en dessous, mais les autres, c'est vraiment du lourd. C'est la seule chose où je me dis, tiens, si éventuellement elle était restée quatrième, ça serait un gros morceau qu'en demi, entre guillemets. Là, ça sera dès l'écart. Mais pour moi, avec l'amour du public, ce qu'elle va ressentir, elle a aucun point à défendre, elle a perdu l'année dernière au deuxième tour, la machine, elle peut largement s'enclencher, surtout s'il fait un peu beau et un peu sec et qu'elle est à son avantage en termes de conditions climatiques. Okay.
Bon, bah donc nous voilà rassurés après les propos de Marion, mais il y a quand même encore quelques zones d'ombre et on attend en tout cas les performances de Caroline Garcia que l'on suivra forcément sur RMC. On parlera des Français, des Françaises dans cette émission à partir de la semaine prochaine. Caroline Garcia, un peu rassurée, Marie ?
Oui, j'ai bien aimé cette, j'ai trouvé ça très technique mais très intéressant sur la façon d'être. Bon, je vais y arriver, la façon qu'elle a de faire du tennis, qui fait qu'il faut que tout soit vraiment parce que c'est pas juste renvoyer des grands cachous, c'est elle a besoin de son 100%. C'est génial.
Ok, 9h44, on reparlera de Caroline Garcia et de tous nos Français à une semaine donc de Roland Garros avec évidemment les qualifications qui ont déjà débuté
tout au long de
la semaine avant le grand tournoi la semaine prochaine. 9h44, on se retrouve dans quelques instants pour le zapping des GG, pas mal d'informations à vous donner, notamment la guerre au CNOSF ou encore Nantes qui s'enfonce encore et encore en Ligue 1. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Je pense qu'on a besoin de rentrer à La Rochelle, de voir notre port, notre vieux port, plein à craquer de Rochelais pour je pense, réaliser une deuxième fois ce qu'on vient de faire.
Jean-Christophe Drouet.
Les Rochelais sont aux anges, évidemment, après ce titre en Champions Cup, le deuxième d'affilée en battant, après un scénario complètement fou, le Leinster à Dublin. On en reparle d'ailleurs à partir de 10h, nous serons avec des supporters qui ont vécu cette soirée inoubliable sur le port, sur le vieux port de La Rochelle. 9h48, de retour dans les grandes gueules du sport avec Marion Bartoli, Marie Martineau, Marc Madiot, Christophe Cessieux. À partir de 10h, on ouvre le débat olympique de Marseille qui s'est incliné hier face à Lille de Buzyn et Dimitri Payet qui était écarté pour cette rencontre. Igor Tudor a-t-il encore manqué de respect à son joueur ? Ce sera le bras de fer des GG. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Des informations à vous donner, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, vous connaissez le principe. On zappe l'information. La première information à vous donner, c'est la guerre au CNOSF à 14 mois des Jeux Olympiques. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je ne m'en fous pas.
Marion Bartoli.
Non, je ne m'en fous pas.
Marc Madiot.
On ne s'en fout surtout pas.
Ah, Marie Martineau.
Ben non, on s'en fout pas.
Mardi soir, Denis Masseglia ne s'est pas déplacé pour rien au siège du Comité National Olympique du Sport Français. Lors du conseil d'administration, l'ancien patron de l'instance a lourdement attaqué celle qui lui a succédé, Brigitte Henriques. En coulisses, la guerre fait rage à quelques jours de l'Assemblée Générale du CNOSF. C'est programmé dans quelques jours, donc le 25 mai. Denis Masseglia veut aussi porter plainte pour abus de confiance auprès du parquet national financier. Réaction de la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castéra. Je pense que le mouvement sportif ne peut en aucun cas se permettre de telles divisions à 14 mois des Jeux Olympiques et Paralympiques et devant le monde entier. Christophe Cessieux autour de cette histoire.
L'image renvoyée par les dirigeants du sport français est tout simplement déplorable. Déplorable. On est à quelques mois des Jeux Olympiques. Tout le monde devrait être en ordre de bataille, uni derrière un président ou une présidente. Or là, on a l'impression d'être dans une cour de récréation où tout le monde se crêpe le chignon, où tout le monde essaye de rallier quelques-uns ou quelques dirigeants à sa cause. Franchement, c'est nul. C'est nul. J'espère que Madame la Ministre, qui a su taper du poing sur la table dans d'autres affaires avec d'autres présidents de fédération, comme ça a été le cas avec le rugby et le foot, eh bien, va prendre le taureau par les cornes là aussi et décider de la suite à donner à cette histoire. C'est soit on reste derrière Madame Henriques, soit on procède rapidement, mais tout de suite là, dans les trois jours qui viennent, à une assemblée générale et on désigne quelqu'un de neuf. Mais là, franchement, c'est déplorable. Ils sont nuls à se crêper le chignon, à essayer de garder leur petit pouvoir et essayer de balancer sur les autres. Franchement, je suis très déçu par ces dirigeants.
Marion Bartoli.
Non, exactement la même chose, mais effectivement, on est à 14 mois des JO, on a l'impression que c'est la guerre en interne, c'est une guerre de pouvoir, que chacun se tire dans les pattes, à coup de déclaration, à coup de porter plainte, à coup de déclaration d'avocat interposé, enfin, je sais pas comment on a pu en arriver là, mais là, il faut absolument que ça se règle extrêmement vite. Alors, je crois qu'il y a une assemblée le 25 mai.
Oui, c'est ça.
L'assemblée générale le 25 mai, donc, il faut, d'après ce que je lis, Brigitte Henriques, c'est absolument mais vraiment pas du tout envie et ça n'a pas traversé l'esprit de démissionner. Donc est-ce qu'on peut l'obliger à refaire des élections à, je sais pas moi, comment on peut aplanir la situation, mais là tu peux pas continuer comme ça. On a l'impression que dans la presse tous les jours c'est ce tir à boulet rouge, c'est horrible. Tu peux pas à 14 mois des JO, c'est impossible de donner cette image là. Je suis complètement d'accord avec Christophe, c'est lamentable.
Marc, c'est un sujet qui tient à cœur aussi.
Ouais.
Quand il dit ouais comme ça,
je pense pas bon. Que il est déjà trop tard.
Ouais.
Les JO sont chez nous dans quelques mois et on s'aperçoit semaine après semaine, mois après mois, que l'organisation du sport français est catastrophique. Mais c'est de notre faute à tous et c'est pas un problème de personne, plus Pierre que Paul ou Jacques. Ou Jacqueline à la tête.
Ou Denis ou Brigitte, c'est ça.
à travers la présidence d'une assemblée ou d'une fédération, c'est l'organisation du système français qui aujourd'hui touche totalement le fond. Moi, je fais souvent référence à mon sport. On va dire que je me répète et que je me répète et que je me répète, mais c'est quand même une réalité. Ça fait 45 ans à titre personnel que j'ai une licence. Je n'ai jamais eu un bulletin de vote pour représenter ou pour désigner mes dirigeants de mon sport. On vit avec 200 ans de retard l'organisation du sport en France. Le dernier qui avait fait, et ça va te faire sourire.
Le général de Gaulle.
Le général de Gaulle est le dernier.
Mais
de Gaulle est quand même le dernier qui avait mis les pieds dans le plat pour réorganiser le sport français. C'était au début des années 60. Il ne s'est rien passé depuis. Donc c'est pas un problème de personne, vous pouvez mettre n'importe qui à la place de président, trésorier, ce que vous voulez. C'est fini, c'est mort. Notre organisation du sport en France est déficitaire. Il faut tout réorganiser, tout repenser. Voilà, c'est tout. Sauf que les JO, c'est dans pas longtemps.
C'est pour ça qu'on avait créé l'ANS, mais on sait pas trop ce qu'ils foutent. Moi, je trouve ça très affligeant. Le spectacle qui est donné est lamentable, c'est pitoyable. C'est une catastrophe. Qu'il y ait des affaires ou pas, que les affaires s'avèrent vraies ou pas, leur guéguerre comme ça est terrible. Mais j'aimerais quand même rappeler qu'à l'intérieur du CNOSF, il y a des gens qui travaillent, qui ne sont pas des élus, mais qui travaillent. Ce sont certainement eux qui aiment le plus le sport. Et pour les côtoyer quand même régulièrement, parce que la commission des athlètes au sein du CNOSF travaille sur des dossiers précis et concrets avec ces gens-là, moi je les remercie de s'accrocher
décrocher, d'y croire, de continuer à bosser sur les vrais sujets qui sont censés faire avancer le sport pour les athlètes de haut niveau, parce que c'est ce qui me concerne le plus, mais aussi pour le sport au sein des fédés et les pratiquants au sein de toutes les fédés. Donc voilà, qu'ils prennent un peu de la graine et exemple sur tous ces gens qui arrivent à cohabiter, travailler ensemble et monter des projets, et qu'on se remette au boulot, quoi, vraiment.
Ok, bon, j'ai pas l'impression qu'on est parti sur de bons rails là, à quelques mois des Jeux Olympiques, mais on va suivre forcément cette histoire et toutes les informations sont à retrouver sur rmcsport.fr. Une autre information que l'on va développer très rapidement ensemble, c'est Nantes qui s'enfonce encore et encore au classement. Le FC Nantes s'est incliné 3-0 face à Montpellier. Juste rapidement, on s'enfonce, on s'en fout pas?
Non, on s'en fout pas, c'est un grand club français.
Ok, Marc Madiot.
On s'en fout pas.
Marion Bartoli.
S'en fout pas.
Ok. Marie Martineau.
Moi, c'est pour une seule et bonne raison que je m'en fous pas, mais j'espère que tu me laisseras la dire.
Très bien. Bah, en tout cas, tu m'as fait un bon teasing. 3-0 à domicile hier face à Montpellier. Eh bien, les Canaries sont dans la zone rouge et n'ont jamais été aussi près de la descente en Ligue 2. Le nouveau coach des Canaries, Pierre Aristouille, après la rencontre.
Les joueurs qui sont abattus, mais c'est plutôt positif d'être abattu après un score pareil. Et il y a des joueurs qui ont peur. Et ça, c'est un problème, par contre. Donc, le joueur abattu, il va rebondir. Le joueur qui a peur, je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas peur le week-end prochain, quoi, par contre.
Ok, les joueurs ont peur. Marie, forcément, je te lance parce que tu m'as piqué.
Le teasing était parfait. Et ben, j'ai un super copain qui anime des émissions de radio, qui a mis couscous sur la descente de Nantes en début d'année. Du coup, je suis le feuilleton avec un autre regard, évidemment. Mais voilà, je m'excuse auprès de tous les supporters de Nantes. Et puis voilà, je compatis à cette douleur-là, mais voilà, ça me ferait rire que tu fasses le plein, quoi. Voilà.
Oui, oui, bah, je m'excuse aussi. Et quand j'ai joué Nantes en début de saison, j'étais persuadé qu'il perdrait Ludovic Blas, Alban Lafont.
Je ne comprenais pas pourquoi chaque fois que Nantes perdait, il sautait de joie. Cette espèce
non,
de... je
ne saute pas de joie.
C'est juste que
tu paries tu fais un truc au début de la saison et puis tu n'y crois pas. Et puis au final, ça arrive. Et je suis désolé pour les supporters nantais.
Bien sûr.
10 secondes, tu voulais dire quelque chose, Christophe ou pas?
Non. C'est juste que ça me fait de la peine parce que
je suis bien d'accord,
voir cette équipe finaliste vainqueur de la Coupe de France, même si ça m'a fait mal l'année dernière, voir qu'elle n'avait pas les épaules pour disputer une Coupe d'Europe et un championnat la saison d'après.
Oui. Pourtant, ils ont une super équipe. Franchement, ils ont une super équipe sur le papier, mais ça ne fonctionne pas. Et on espère une belle fin de saison aux Canaries, vraiment. Et je vous le dis du fond du cœur et pas du fond du porte-monnaie. 9h57, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. L'OM, Igor Tudor, Dimitri Payet, c'est sulfureux. On en parle dans le bras de fer des GG. À tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.